Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview. Et au studio avec nous, Laura Markelli. Bonjour.
Bonjour.
Laura Markelli, vous êtes ici pour nous parler du SAB 26. Donc, c'est Solidarité Anorexie Boulimie que vous avez créé il y a un peu plus d'un an.
Tout à fait.
Et donc, vous êtes ici aussi pour nous annoncer les rendez-vous réguliers qui sont proposés avec ces groupes de parole. Et puis, il y a peut-être aussi cette journée nationale du 2 juin qui est justement cette présentation des journées mondiales donc, autour de l'anorexie boulimie.
Oui, tout à fait. Par où commencer ? Donc là, je viens pour vous parler déjà de cette journée qui en fait se transforme en semaine cette année, puisque le 2 juin tombe un dimanche. Donc l'association nationale qui organise cet événement de sensibilisation autour des troubles alimentaires a proposé que ce soit la semaine donc du 27 mai au 2 juin, je crois. Pour faire connaître toutes ces problématiques de santé et de santé mentale qui touchent beaucoup de personnes, qui toucheront une femme sur cinq dans leur vie, donc c'est quand même pas rien. On connaît l'anorexie et la boulimie principalement, mais il y en a plein d'autres, voilà. Et nous, notre association, on va proposer un petit stand d'information au marché le samedi 1er juin, toute la matinée. Voilà, donc n'hésitez pas à passer, nous voir, poser des questions, vous renseigner, et on vous parlera de nos actions. Et après, sur Valence, où on a aussi une antenne, on fera une matinée d'information à la Maison Relais Santé le samedi 1er juin aussi, de 9h à 13h. Voilà.
Cette association, je crois, est née au début des années 2000, hein, aux environs 2003-2004. Est-ce que tu t'es intéressé un peu justement à cette organisation ? Comment l'as-tu rencontré d'ailleurs ?
Alors moi c'est très simple, j'avais un rendez-vous pour moi au CHU de Saint-Étienne parce que en tant que personne souffrant de troubles alimentaires, on dépend du CHU de Saint-Étienne. Donc voilà, j'avais un rendez-vous médical là-bas et il y avait une affiche de SAB 42 qui était mise là-bas et qui proposait des groupes de parole. Du coup, en rentrant, je me suis dit, tiens, je vais chercher s'il y a un SAB 26. Et en fait, il n'y en avait pas. Donc, j'ai appelé le réseau national de l'Union des SAB pour savoir comment faire pour créer une antenne en Drôme. Et j'ai eu le monsieur qui a créé cette association en début des années 2000, en effet, Bruno Durepère, qui a créé cette association suite au décès de sa fille. Voilà. D'anorexie et qui, en tant que parent, s'était senti très démuni et donc il a voulu initier justement des espaces où les parents, les proches et les personnes malades pouvaient se rencontrer et discuter. Voilà.
20 ans après, toi-même, donc, t'es rendu compte qu'il n'existait pas ce groupe de parole pour les personnes affectées.
Ça, malheureusement, même si on en entend parler dans les médias, que parfois les mannequins, ce genre de trucs, les chanteuses disent qu'elles ont eu des troubles alimentaires ou quoi, ça fait partie des problématiques qui sont pas assez prises au sérieux par les pouvoirs publics. Quelqu'un qui maigrit ou quelqu'un qui grossit, on va lui dire de manger plus ou de faire un régime, et ça s'arrête là. Et beaucoup de médecins sont démunis par rapport à ça. Et donc, les moyens de se soigner ou de se faire accompagner sont très peu développés. Et moi, il y a 20 ans, la seule proposition, c'était la psychiatrie. Donc, j'ai fait plein de services de psy dans tous les sens. Oui, ça m'a sauvé la vie. Je ne suis pas morte de faim et je n'ai pas fait d'arrêt cardiaque. Mais après, au-delà de ça, ça ne m'a pas permis de régler mes problèmes parce que ces troubles naissent à cause d'un mal-être. Et c'est ce mal-être qu'il faut régler. Et donc, voilà. Les propositions de groupes de parole, les propositions de groupes thérapeutiques, les propositions de bouger son corps, de se réconcilier avec lui, ou d'art-thérapie, de danse-thérapie, sont des approches beaucoup plus adaptées, qui sont bien développées dans d'autres pays.
On va arriver sur le DIWA avec ce constat pour toi de la non-existence de ce type de groupe de parole. Donc, ton envie de créer cette structure qui s'intitule donc Solidarité Anorexie Boulimie 26. Alors, comment c'est constitué? Est-ce que c'est un parcours du combattant pour créer ce type d'organisation?
Eh bien, à vrai dire, on a créé l'asso avec une copine en août 2022. Et après, on s'est mise au forum des assos dans la foulée. Voilà, il y a des gens qui sont approchés de notre stand, ont posé des questions. Et on a annoncé la première date du groupe de parole. C'était en octobre, je crois, 2022. Et on en démarrait, on était cinq. Avec des parents, et moi, elle, et puis une autre personne. On s'est retrouvés une fois par mois, un samedi, pour discuter, parler des avancées. Du coup, quand on se croisait dans la rue aussi, on pouvait se reconnaître. On savait qu'on avait aussi ces difficultés-là. Et puis rapidement, en fait, on a eu un petit noyau sur 10 qui s'est créé de personnes donc adultes, dont les troubles se sont chronicisés, c'est-à-dire qu'ils sont devenus des moyens de vivre au quotidien, mais qui sont handicapants, mais qui sont toujours présents. Et on a créé, j'ai décidé de créer un groupe thérapeutique. Donc ça, c'est un peu différent. C'est un groupe uniquement pour les personnes qui sont en difficulté et qui est encadré par un psy. Et l'idée, c'est que ce soit vraiment l'effet du groupe qui permette d'avancer chacun petit à petit, voilà, à petits pas. Et donc ce groupe, c'est un lundi tous les 15 jours. Voilà. Tous ces groupes se passent à la communauté de communes. On a trouvé une salle, et c'est super, une salle gratuite proposée par la communauté de communes du DIWA.
Oui, parce que la CCD, au sortir du Covid, a organisé ce dispositif envers la santé mentale. Vous y avez pris part aussi dans cette action?
Eh bien oui, j'étais au lancement du conseil local en santé mentale. C'était en janvier, je crois que c'était 2023. Puis après, Sonia Rochat a quitté son poste et donc c'est un peu resté à l'arrêt. Et là, il vient d'y avoir une nouvelle personne, Mathilde Collignon, qui vient d'être embauchée pour relancer ce CLSM. Voilà. Mais en effet, j'avais un peu argumenté auprès de la communauté de communes en disant, bah, voyez, nous, on propose des groupes de parole sur la santé mentale. Est-ce que vous n'auriez pas une salle pour nous? Et en réalité, ils avaient une salle qu'ils n'avaient jamais mise à dispo des assos. Donc, on les a un peu bousculés pour que ça démarre.
Alors, ce groupe de parole, au départ, vous étiez donc cinq. Ces entretiens entre vous toutes, personne, est-ce que malgré la différence de chaque existence, le vécu de chacune ou de chacun, est-ce qu'il y a, vous avez décelé ce point commun qui vous lie?
Eh bien... On ne saura pas l'expliquer, mais en tout cas, on se comprend. On n'a absolument pas les mêmes modes de vie. On n'a pas les mêmes avancées. Nos troubles nous handicapent tous de manière différente. La personne qui anime le groupe, elle aime bien dire que on a tous notre chef-d'œuvre. Et moi, j'aime bien cette image-là, de se dire qu'en fait, en tant qu'individu, on s'est constitué avec aussi ça, mais qui nous handicape, mais qui a été une béquille à un moment. Et du coup, il faut arriver à laisser passer un peu de vie et un peu de lumière dans tout ça. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces troubles, ils enferment. Ils enferment, ils isolent. Pour certains, ils peuvent être culpabilisants. Ils peuvent nous empêcher d'avoir une vie sociale, d'avoir une vie amoureuse. Parfois, on peut être très fatigué. On peut avoir de la dépression. Enfin, voilà. Et donc, au moins... On se retrouve autour de ça dans le groupe.
Il y a aussi cette table que vous proposerez le 1er juin sur le marché de Die. Est-ce que pour vous, c'est aussi aller vers le public, peut-être pour vous faire connaître et aussi peut-être une certaine demande qui pourrait être satisfaite?
Eh ben, c'est ce pourquoi j'ai un peu pêché. Cette année, parce que je me suis fait embarquer par les popotes. Mais c'était mon idée, vraiment, de pouvoir développer aussi cette activité-là. Il y avait deux axes, en plus de juste ces groupes de parole. C'était déjà d'aller à la rencontre des professionnels du secteur médical, qui sont en demande, en fait, qui ne connaissent pas, qui ne savent pas comment accueillir des personnes qui souffrent de troubles alimentaires, quels sont les, les bonnes personnes vers qui orienter et tout ça. Donc j'ai rencontré une fois les médecins de la maison médicale, mais il faudrait que je puisse les rencontrer plus régulièrement, voilà, pour faire ce lien-là. Et après, il y aurait un autre truc, ce serait d'arriver à aller auprès des publics qui sont les plus fragiles et qui sont les plus sujets à ces troubles-là. Et ça, c'est le public adolescent. Donc ce serait arriver à créer du lien avec la cité scolaire, avec l'espace jeune et avec tous ces acteurs-là pour, pareil, et ben, au moins qu'ils puissent passer l'information que nous, on existe. Parce que des fois, il y a juste besoin de ça et il n'y a pas besoin de plus. Et peut-être après, derrière, faire un travail, mais au moins déjà ça, de dire qu'on existe, parce que clairement, ce qui se passe pour parler de guérison dans ces troubles-là, c'est qu'il faut que ce soit pris la première année. Et en fait, c'est un tel parcours du combattant auprès de trouver des psychiatres. Ici, on sait bien, ben, y a un psychiatre qui vient de revenir, le docteur Marion, et sinon, on a le psychiatre du centre médico-psychologique qui est à l'hôpital. Il y a un an d'attente, peut-être, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est trop de temps perdu.
Il y a aussi ce constat pour toi depuis cette création du SAP 26, d'une présence insoupçonnée de personnes en difficulté et qui s'amplifient ou qui se manifestent.
Bah en tout cas, c'est assez marrant. Je crois que les gens m'ont identifié comme personne souffrant de troubles alimentaires. Voilà. En même temps, pourquoi se cacher ? Ça sert à rien. Et donc, des fois, au cours d'une soirée, d'une sortie ou quoi, il y a des gens qui me confient qu'eux aussi souffrent de troubles alimentaires depuis longtemps. Mais ils n'en sont pas encore à cette démarche de venir au groupe et tout ça. Mais en tout cas, ils savent que ça existe. Donc oui, on ne soupçonne pas que beaucoup de monde en souffre en réalité. Hein. Quand je disais qu'une femme sur cinq en souffre ou en souffrira dans sa vie, je pense que les chiffres sont vrais. Et ça commence à toucher de plus en plus d'hommes aussi. Alors chez les hommes, ça se manifeste un peu différemment puisqu'ils vont faire du sport de manière excessive. Et c'est en basculant sur ce qu'on appelle de la bigorexie, donc c'est du sport de manière excessive, ils vont vouloir contrôler leur alimentation. Et donc après, de fait, ça va développer des troubles alimentaires.
L'anorexie ou boulimie sont des symptômes qui s'élaborent dans la durée et crescendo.
Moi, en tout cas, ce que j'ai constaté pour moi, c'est que ça a débuté par une anorexie, ce qu'on appelle mentale restrictive, c'est-à-dire que à un moment, j'ai décidé de plus manger. Et j'ai commencé à enlever un aliment, deux aliments. Et puis après, en fait, quand j'étais à table avec mes parents, je cachais la moitié de l'assiette dans mes serviettes. Enfin voilà, truc pour leur faire croire que je mangeais. Moi, en même temps, je mangeais de moins en moins. Et en parallèle de ça, je faisais de plus en plus de sport. Donc j'ai perdu 20 kilos en 2 mois. Et, sauf qu'à un moment, le corps, il rentre en famine. Parce que bah, voilà, il a besoin. Donc au début, il va mettre en stop certains organes. Déjà, on va avoir plus souvent froid. Ça fait partie des trucs qu'on peut commencer à repérer quand la personne a tout le temps froid. Chez une fille, quand il n'y a plus de règles aussi. Donc ça veut dire que le corps, il met en sommeil tout l'aspect de reproduction parce que ça consomme trop d'énergie. Et après, il y a deux options. Il y a des personnes qui vont rester sur de l'anorexie mentale restrictive et donc qui vont arriver à réintégrer un petit peu d'aliments pour rester juste au seuil de pas basculer vers la mort, quoi. Et après, il y a d'autres personnes chez qui cette famine va être contrecarrée par ce qu'on appelle des crises de boulimie. Et donc ça, c'est juste l'instinct de vie qui est à l'intérieur, qui revient là et qui dit « mais en fait, il faut te nourrir ». Sauf qu'on a la petite voix d'anorexie derrière qui dit « ah mais non, mais il faut pas manger, c'est pas bien, t'es déjà énorme, culpabilité » et tout ça. Et donc ça bataille à l'intérieur. Et donc là, soit il y a des personnes qui ont des vomissements pour contrecarrer ces crises de boulimie, soit il y a des personnes qui vont prendre des laxatifs ou pas manger pendant 2-3 jours. Voilà. Et du coup, on voit souvent que c'est une facette, c'est la médaille un peu avec les deux facettes. Voilà. Après, il y a des personnes qui ont juste de la boulimie. Et donc ça, elles sont en surpoids. Et donc, elles vont, pareil, manger de manière compulsive, mais elles arrivent quand même à manger à leur repas, on va dire, normalement.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du Diwa.
107.5
101.7
FM.
Autour de ces personnes, il y a la famille, les amis. Mmh. C'est aussi pour ces personnes-là que vous aurez cette table sur ce marché également.
Ah bah oui, oui. Enfin, moi j'échange beaucoup. En fait, j'ai beaucoup de coups de téléphone de parents. Je ne m'attendais pas à ça en créant l'association, mais du coup, voilà, c'est ça aussi. De parents de toutes parts, de la Drôme et même d'Ardèche, parce qu'il n'y a rien en Ardèche. Et ils sont démunis, en fait. Ils sont démunis, ils voient leurs enfants qui... Bah, c'est souvent des ados ou des pré-ados, qui, parce que ça commence très jeune. Là, j'ai des parents qui ont des enfants de 9 ans, là. Donc, ça commence vraiment à être inquiétant. Et voilà, ils sont démunis, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas vers qui aller, ils ne savent pas à qui se confier. Enfin, voilà, tout un monde s'effondre, en fait, quand ça arrive dans une famille, ça chamboule tout. Et donc, ces espaces de parole, qui sont ce qu'ils sont, permettent aussi aux familles de se retrouver. À Valence, ils sont une vingtaine de personnes à participer au groupe et il y a beaucoup de parents qui sont contents. Ils se sont créés un petit groupe WhatsApp et du coup, maintenant, ils se retrouvent en dehors du groupe. Ils se soutiennent, ils s'appellent et voilà. Et je pense que c'est bien d'avoir ce réseau-là. Ça existe pour les aidants familiaux de manière globale. Et ben nous, on essaye de le faire... pour nous aussi, parce qu'en fait, la guérison passe par le soutien de la famille et par une volonté de la famille aussi d'aider la personne à se sentir mieux, en fait.
Est-ce que, justement, autour de ces personnes, il y a ce sentiment de culpabilité par rapport à la personne atteinte ?
Ah oui, 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 ils s'en veulent beaucoup. Moi, dernièrement, je discutais avec une maman qui me disait, mais en fait, pourquoi je ne l'ai pas vue ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que je n'ai pas été assez présente ? Est-ce que je lui ai fait des remarques ? Enfin, voilà. Et peut-être. Bah, on n'est pas des parents parfaits. Et moi, je ne serai pas une mère parfaite pour ma fille. J'espère qu'elle grandira bien. Mais on ne peut pas savoir tout ce qui rentre en compte dans la vie psychique d'une personne. Donc, peut-être qu'on fait mal, mais c'est pas grave. Je pense qu'il faut aller de l'avant et qu'il faut se soutenir. Se culpabiliser, ça n'arrangera pas le problème. Et au contraire, ça va nous mettre, nous, en difficulté aussi. Là, j'étais allée à une réunion à Valence sur le contrat local de santé. Et je suis restée assez effarée par les chiffres qui ont été présentés par un médecin de l'ARS qui expliquait qu'en fait, la santé des gens dépendait à plus de 80% de l'environnement et du facteur économique, en fait. La génétique et tout ça, c'est infime. Donc, ce qui est vraiment important, c'est l'environnement et les moyens qu'on a aussi. Donc, voilà, souvent, les problématiques des troubles alimentaires viennent faire émerger un problème d'environnement familial toxique.
Et tu es en accord avec ce constat ?
Oui.
Voilà. Il y a donc autour de nous beaucoup d'associations hein, qui œuvrent aussi, au moins dans le bien-être, qui tendent à améliorer l'existence. J'ai reçu cette semaine l'association Abside. Je ne sais pas si tu connais. Donc, il y a aussi, est-ce qu'il existe une relation entre vous pour peut-être vous nourrir, vous conseiller aussi ?
J'espère, c'est une intention en tout cas que j'ai, que le conseil local de santé mentale puisse nous aider à ça, parce qu'on ne se connaît pas tous. Moi, je vois leur fly, Abside, je les ai vus, ils sont présentés une fois à un petit déj partenaire, donc je sais ce qu'ils font. J'y suis jamais allée pour le moment. Et il y a certainement d'autres assos qui sont certainement... qui auraient du lien à faire avec nous ou qu'on aurait du lien à faire avec eux. Par exemple, je pense aux chouettes, parce que les personnes qui ont eu des violences physiques ou sexuelles vont souvent avoir en symptômes des troubles alimentaires. Il y a des études qui le prouvent. Et voilà, donc je pense qu'il faut qu'on arrive à travailler ce lien-là avec elles. On en a déjà parlé, mais on n'est pas allé au bout de ça pour le moment.
Et donc, nous arrivons aussi à ce que vous proposez donc, aux personnes que vous contactez. Qu'est-ce qu'il y a ? Donc, il y a ce groupe de parole thérapeutique. Alors, comment se passe et à quel rythme se déroulent ces groupes ?
Eh bien, donc, on a décidé que ce serait un lundi tous les 15 jours. La personne qui anime trouve que ce serait mieux d'avoir une fréquence chaque semaine, mais comme on est plusieurs à être parents en garde alternée, ben c'est pas possible. Voilà, il faut aussi faire face aux réalités de la vie quotidienne. Donc l'idée, c'est que si une personne souhaite intégrer ce groupe, elle doit contacter d'abord le professionnel de santé. Et voilà, parce que intégrer le groupe, ça veut dire aussi modifier la physionomie du groupe. Et donc il faut que nous, on soit OK pour qu'une nouvelle personne intègre ce groupe. Et c'est pas je viens voir une fois et puis je m'en vais. Il faut être s'engager dans le soin réellement quoi. Donc contactez la personne, on pourra vous mettre le numéro en lien de cette petite interview.
Oui, je la mettrai sur la page du site de l'émission. Et donc il y avait une question. Ah, décidément. Heureusement que je monte après.
Et du coup là, depuis aujourd'hui, j'en viens là. Enfin, ce vendredi, j'ai initié une activité de sport adapté. Et donc, c'est avec une professeure de sport qui est arrivée il n'y a pas longtemps sur le DIWA, qui s'appelle Juliette Raymond. Et l'idée du sport adapté, qui aussi, en faisant des recherches, j'ai vu que ça avait quand même bien sa place pour soigner les troubles alimentaires, c'est de permettre de remettre en mouvement le corps, de se remuscler, de se reconnecter à son corps, mais de manière, on va dire, douce, parce qu'on est souvent sur quelque chose qui est plutôt violent, entre l'hyperactivité, entre les vomissements, entre le rejet de son image corporelle. Donc là, c'est plutôt de faire une séance par semaine avec elle, donc on est en groupe, et de faire des petits exercices de cardio, des petits exercices d'abdos, de respiration. Et voilà, et c'était une première ce vendredi, et tout le monde était très content. Et l'association va prendre en charge les cours. On a obtenu une subvention pour ça.
Ces réunions de groupes de parole durent de combien de temps environ? Est-ce qu'elle est variable, cette durée, en fonction du nombre de personnes?
Pour les groupes de parole, ça dure 1h30. Et on y tient, on tient à l'heure, parce qu'en fait, on a une personne qui vient de Mirabel et Blacon. Donc qui fait la route, qui vient après son travail le soir et donc qui... Enfin voilà, c'est déjà une bonne preuve de sa démarche personnelle de venir après son travail pour un groupe. Et donc, on s'y tient, on démarre à l'heure et on finit à l'heure. Ouais, ça dure 1h30.
Justement, j'y pensais, c'est par rapport à l'activité professionnelle. Est-ce qu'elle est impactée aussi par ce facteur d'anorexie ou boulimie?
Moi, pour ma part, ça m'a impactée, oui, clairement. Pendant des années, après mes diverses hospitalisations, j'ai eu fait plein de petits boulots, voilà. Mais il y avait des fois où je n'arrivais pas à me lever, il y avait des fois où j'étais vraiment dans le creux de la vague, si on peut dire. Du coup, j'ai perdu mes petits boulots, tout simplement, hein, voilà, faut le dire. Je n'avais pas des capacités non plus en termes d'intelligence qui étaient suffisantes pour me permettre de réussir des concours. J'ai tenté des concours de la fonction publique, je voulais être bibliothécaire, et j'avais beau lire des livres, et on m'a toujours dit que j'étais quelqu'un qui avait plutôt une bonne intelligence. En fait, le fait est que quand on ne s'alimente pas, le cerveau ne réfléchit pas assez bien, donc j'ai zéppé. Et je n'ai pas pu faire d'études, et puis voilà, après j'ai travaillé en restauration, ce genre de trucs, et parce qu'il faut gagner sa vie, mais... Mais le problème aussi, c'est ce que je dis, c'est que quand on travaille trop, du coup, c'est bien, ça libère le mental, mais on ne se soigne pas. Et donc, à un moment, finalement, on met de côté ce trouble-là qui est quand même présent. Et je pense qu'il faut aussi y faire face et du coup, mettre en place des choses pour que ça aille mieux. Des fois, le travail, ça peut être un échappatoire dans lequel on peut s'enfermer et... Et moi, la restauration, ça c'est fini, que j'ai fait une chute en cuisine, je me suis fracturé le coccyx, je faisais 35 kilos, je ne savais pas que je faisais 35 kilos, et j'ai fini en hospice en urgence. Voilà. Et donc après, j'ai décidé de voir les choses différemment et d'essayer de prendre d'abord soin de moi, et du coup ici, m'investir dans l'associatif, parce que ça m'intéresse et que je rencontre des gens et que... Ça m'aide à acquérir un peu plus d'estime de moi aussi. Et peut-être que quand j'aurai des plus grandes capacités physiques, là, je pourrai reprendre un travail, et j'espère.
Autour de vous, il y a aussi cet appel aussi à de bénévoles. Pourquoi au juste, et apporter quoi?
Alors l'appel est plutôt destiné à des professionnels ou des personnes qui ont déjà vécu ces troubles-là. Les professionnels, ce serait pour pouvoir développer d'autres activités, en plus de ce qu'on propose. Je pense à de la danse-thérapie, à de l'art-thérapie, à de la sophrologie, enfin voilà, plein de choses différentes dont on sait qu'ils permettent d'aller mieux. Et après, des bénévoles qui auraient vécu ces troubles, qui s'en seraient sortis, ça fait partie des choses qu'on me demande souvent, en fait, puisque moi, je témoigne, mais en fait, j'en souffre toujours. Et du coup, il y a cette idée un peu de la paire aidance qui revient pas mal dans les nouvelles approches du soin et de la prévention, c'est-à-dire que des personnes qui ont déjà vécu, expérimenté ces difficultés-là, puissent accompagner, témoigner de ce qu'elles ont vécu et de soutenir finalement les personnes qui sont en train de le vivre. Voilà.
Ce dimanche 26, il y aura la fête du circuit court avec une préparation de repas par les potes du dimanche. Qu'est-ce qui t'a amené à atelier avec justement cette structure ?
Je vais en parler pendant des heures avec le psy. J'imagine que c'est assez rigolo qu'une personne souffrant de troubles alimentaires initie un projet tel que les popotes. Mais voilà, je sais pas. À un moment, c'était... Moi, pour ma part, les troubles, ils ont émergé parce qu'il n'y avait pas de lien social, il n'y avait aucun lien dans ma famille. C'était un grand... J'étais seule, quoi. Et du coup, recréer du lien par la cuisine et par l'alimentation, ça doit me permettre de réparer tout ça.
Un repas convivial avec du monde. C'est une proposition, parfois, d'ailleurs, que tu opères avec les personnes du SAP 26 à participer aux popotes également.
Il y en a qui y participent. Je sais que sur Valence, la diététicienne a déjà fait des groupes, des petits cours de cuisine avec les participants de son groupe. Et là, elle est rentrée dans le conseil collégial de l'association. Donc, elle va venir intervenir sur des popotes aussi pour parler d'alimentation de manière générale. Ouais.
Je rappelle donc ces présences de groupes de parole. D'ailleurs, pour les connaître, il suffira de téléphoner au numéro que je mettrai sur le site de la page de l'émission. Et puis, il y a aussi des contacts par mail également avec solidarité.anorexie-26.net. Il y a également un site internet www.solidarité-anorexie.fr. Eh bien, Laura Marcelli, merci beaucoup de ta présence au studio de RDIWA et je te souhaite une bonne soirée.
Merci, bonne journée.
Au revoir.
J'en ai souvent parlé sans en parler, j'ai effleuré le sujet. J'avais trop honte de raconter comment je me suis créé un monde isolé. Isolé de tout, des tables de famille, des rendez-vous joyeux que je voulais pas subir. J'avais peur de montrer aux autres que je ne sais pas me nourrir. Mieux vaut se laisser mourir. Si je mange, je vais en enfer. Y'en a que ça dérange. Si je mange, je vais en enfer. Ça te dérange? Est-ce que ça te dérange? J'en ai souvent parlé sans en parler. Je voulais pas mettre de mots, non. Vous dire que c'est une maladie, c'est vous raconter qui je suis vraiment. J'en ai gommé, dégommé, dévoré, trop bouffé de ce vide immense. Et dire que c'est alimentaire, moi je ne veux que rentrer. Et toutes mes pensées. Si je mange, je vais en enfer. Y'en a que ça dérange. Si je mange, je vais en enfer. Est-ce que ça te dérange? Est-ce que ça te dérange? Est-ce que ça te dérange? Si je vous en parle aujourd'hui, c'est que j'ai pris du recul, que je considère être un peu sortie de cette étrange bulle. Je crois avoir compris le pourquoi du comment. Même si c'est jamais fini, cette fois c'est différent. Car
car je vous ai tout dit.